Vous écoutez Mikonak, l'émission qui vous aide à mieux connaître les artistes chrétiens. Mikonak, sur la RCEI, votre radio. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue bien cordialement et vous remercie de faire vôtre la radio de la culture, de l'information et de l'édification spirituelle Ebenezer International, The Digital Gospel Channel. C'est votre ami podcasteur Franck Douristil qui vous parle depuis son home studio basé en France métropolitaine. Et c'est bien sûr l'occasion d'envoyer une salutation tout à fait spéciale à ceux d'entre vous qui viennent de découvrir pour la toute première fois la radio qui vient vers vous pour vous servir, Ebenezer International. Chers amis à l'écoute, la rubrique Mikonak n'a-t-elle pas été conçue pour vous permettre de mieux connaître les artistes chrétiens? Les témoignages de ces derniers, leurs convictions, leur attachement au Seigneur n'ont-ils pas autant d'importance pour vous que leurs belles chansons qui embellissent votre quotidien? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'heureux privilège de vous présenter dans cette nouvelle édition de Mikonak l'artiste chrétien Georges Seba. Vous avez sans doute déjà eu l'occasion d'apprécier plusieurs de ses chansons dans nos émissions et plus particulièrement dans le programme Gospel Plus. Mais aujourd'hui, c'est une occasion unique que nous vous offrons pour entrer dans son univers afin de vivre son témoignage, ses expériences avec le Seigneur Jésus-Christ et également son parcours en tant qu'artiste, musicien, compositeur et interprète. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute. Hello, you are listening to the Digital Gospel Channel, the Radio Ebenezer International. Thanks for joining us today for Christian programming to feed your spirit. My name is Frank Douristil, your brother in Jesus Christ, your friend podcaster speaking from France, and I pray you will be mightily blessed for your time with us today. Be sure to tell all of your friends and relatives to join us at www.radioeben-israelinternational.com. www.radioeben-israelinternational.com. And this brand new edition of Mikonak, we are very glad to introduce you a new friend of our radio station, the Christian artist and gospel singer, Georges Seba. Thank you again for choosing this radio station, and may the Lord bless you richly for this time with us today. Cari amici ascoltatori, vi mandiamo i nostri fraterni saluti e vi ricordiamo che è sempre un piacere avervi fra noi. Sono il vostro amico Franck Douristil che vi parlo dalla Francia e vorrei dirvi che mi è un grandissimo piacere di accogliere oggi un gran cantante, un musicista cristiano. Il suo nome è Georges Seba. Il programma sarà interamente in francese, ma penso che sia interessante soprattutto per quelli cui piacerebbe scoprire un poco più la lingua francese. Augurio un buon ascolto a voi tutti, cari amici ascoltatori della Radio Cristiana Ebenezer International dalla Francia. Vous suivez l'émission Mikonak sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Avant d'accueillir notre invité, l'artiste Georges Seba, écoutons la chorale Les Chérubins Seigneurs de Pierrefitte dans ce morceau intitulé Glory, glory, alléluia. Wow. Sous la baguette du maestro Georges Seba. Bonne écoute à toutes et à tous. Yes, alléluia. Salutations à tous les amis de Sarcelles, de Pierrefitte, de Gonesse, Villiers-le-Bel. Tous les auditeurs du Val d'Oise, nous vous aimons dans l'amour de Jésus, notre Seigneur.
Glory, glory, alléluia. Sing solid, humble and sound. Glory, glory, alléluia. Sing solid, humble and sound. I'm going home to see my Jesus. Amen. Sing solid.
Mikona. Les chérubins de Pierrefitte, alléluia, alléluia, since I lay my burdens down. Depuis le jour où j'ai déposé mes fardeaux aux pieds de Jésus, j'ai pu chanter alléluia, alléluia, puisque je suis soulagé, délivré. Vous suivez l'émission Mikonak, et c'est maintenant le moment d'accueillir notre invité, l'artiste chrétien Georges Seba. Bonne écoute. Monsieur Georges Seba, je vous dis bonjour et vous remercie de nous avoir réservé ce moment précieux de votre emploi du temps afin de permettre à nos auditeurs de faire votre connaissance et surtout de s'informer en même temps de vos activités artistiques.
Merci Franck, merci de m'accueillir et de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer au travers de ce programme.
Georges, beaucoup de gens vous reconnaissent par votre voix, en ignorant complètement la personne qui se trouve derrière elle. Voudriez-vous vous présenter à ces amis qui vous écoutent de part et d'autre sur la planète ou qui vous écouteront partout par le biais de cette radio?
Bonjour, je me présente, je m'appelle Georges Seba. Je viens de par ma mère du Cameroun. De par mon père de Grèce, et de par mon passeport de France, et donc je suis né il y a quelques dizaines d'années, et je vis en France, où j'exerce mon métier de musicien, d'artiste musicien, ou plus spécifiquement d'intermittent du spectacle.
Mère camerounaise, père grec. Comment expliquez-vous ce mélange culturel, ou du moins comment faites-vous pour tirer le maximum de cette bénédiction?
C'est vraiment une bénédiction. Disons que c'est quelque chose de tout à fait fortuit. Mon père est venu il y a des années, quand il était jeune, au Cameroun pour faire fortune, pour travailler. Il a rencontré ma mère. C'est dans cette entrefaite que je suis né et que j'ai grandi. Donc au Cameroun jusqu'à peu près l'âge de 19 ans, 20 ans, et je suis monté donc en France pour faire un peu mais continuer mes études, et c'est là que j'ai pu continuer à exercer également mon métier de musicien.
Donc une bonne partie de votre jeunesse a été vécue sur la terre natale,
au Cameroun. Tout à fait, je suis né en Afrique, je suis né au Cameroun, et j'ai passé ma première partie de ma vie là-bas, et c'est vrai que je connais très peu la Grèce. Mon père était de l'île de Rhodes, j'ai été que quelques fois, mais j'avoue qu'avoir plus de racines en Afrique qu'ailleurs.
Un Africain, un Camerounais de père grec, oui. Alors, avez-vous quand même quelque chose de la culture grecque de votre père, comme sa langue par exemple? Vous parlez un petit peu?
Non, pas du tout. J'ai essayé d'apprendre même à l'école, d'apprendre le grec, mais j'avoue que j'ai pas été doué à ce niveau, et bon, j'ai pas fait vraiment l'effort, et bon, c'est un côté que j'ai très peu vécu véritablement. Mmh. Je n'ai pas fait un effort particulier. Je parle plus, je parle français, parce que j'ai été éduqué dans une école française. Et puis, je parle la langue que j'ai apprise au Cameroun. Et bon, c'est très bien comme ça.
Ça, c'est intéressant. Vous parlez votre langue maternelle, en fait.
Oui, tout à fait, ma langue maternelle. Oui.
Qui s'appelle comment?
C'est le Boulou.
Le Boulou.
Le Boulou, qui n'est pas le Zoulou. Mais c'est le même groupe, qui sont les Boulous, les Zoulous, et tous, ce sont des groupes ethniques qui appartiennent au grand groupe, les Bantous. C'est des peuples qui se trouvent en Afrique centrale. On les trouve à partir donc du Cameroun, en descendant vers le Congo, l'Angola, jusqu'au Cap, jusqu'en Afrique du Sud.
À chaque fois que j'ai eu le privilège d'entendre une personne parler l'une des langues, des diverses langues africaines, je retrouve toujours un petit peu de sonorité créole. Je ne sais pas, pour le Boulou, est-ce que c'est la même chose? Pourriez-vous dire, je ne sais pas, une petite phrase pour saluer nos auditeurs qui nous écoutent au Cameroun, qui comprennent cette langue, pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux entendre?
Alors, je vais dire quelque chose de très simple. Pour dire bonjour chez nous, on dit Mbolo.
Mbolo,
voilà.
C'est facile, ça.
Et pour répondre, vous rajoutez un A, ça fait A Mbolo. Donc, quand je vous dis Mbolo, vous répondez A Mbolo.
A Mbolo.
Mbolo Franck.
Ambolo,
c'est ça.
Eh ben bon, ça me suffit amplement. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils suivent une nouvelle édition de Mikonak et que notre invité est l'artiste Georges Seba. Alors Georges, votre intérêt pour la musique en général, et plus particulièrement pour le gospel, sous-entend bien évidemment une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le centre même du message que véhicule la musique gospel, quoi que l'on dise. Parlez-nous de ce jour qui est sans doute l'un des plus importants de votre vie, votre rencontre avec le Seigneur Jésus.
Oui, c'est vrai. Je dis toujours que on ne naît pas chrétien, on devient chrétien, on devient disciple de Jésus. Et moi, effectivement, j'ai eu le privilège de grandir dans l'enseignement de la Bible, d'aller à l'église quand j'étais petit, d'avoir justement l'opportunité d'apprendre la musique au travers de la chorale, au travers du chant gospel, ainsi de suite, de la musique entre guillemets religieuse, comme on le dit. Et j'ai mené cette vie, mais pourtant, j'ai eu à faire une démarche personnelle. C'est pour ça que je dis, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et quand, quelques années après, comme je le disais tantôt, je suis arrivé en France, et que j'ai commencé à exercer mon métier, que les choses se passaient bien, j'avais le privilège très jeune de pouvoir commencer à travailler dans des groupes, de parcourir le monde, d'aller dans des grands festivals au Canada, en France et partout dans le monde. Je me suis posé la question de savoir, et d'ailleurs c'est une question qui s'est posée simultanément d'ailleurs avec mon épouse. Nous nous sommes dit, mais qu'avons-nous fait du Dieu que nos parents nous ont enseigné? Qu'avons-nous fait du Dieu de cet enseignement qui nous a été inculqué quand on était enfant? Et à partir de ce jour-là, c'est appliqué ce que la Bible dit. Elle dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Et nous avons vraiment cherché à nous retourner vers ce Dieu que nous avions oublié parce que nous étions dans un milieu de la musique avec beaucoup de lumière, de projecteurs, de paillettes, d'une certaine vie, faut dire assez bonne. Et là, on avait vraiment besoin de retrouver ce Dieu qui nous avait été enseigné. Mais c'est comme ça que Dieu, lorsqu'il a vu cette recherche, cette soif, il a organisé les circonstances pour que nous puissions, elle et moi, et moi en particulier, faire une rencontre véritable avec lui. Et c'est là que cette soif a été étanchée et un certain nombre de choses d'événements se sont mis en place de telle manière que l'apothéose de ces événements était le passage à Paris de c'était une grande campagne d'évangélisation de Billy Graham. Mm-hmm. et Billy Graham était à Bercy et moi j'étais simplement allé écouter son message entre guillemets en tant que chrétien. Je me disais bon, je vais écouter, mais cette fois ce message a résonné de manière particulière dans mon cœur. J'avais été enseigné, on m'avait dit que j'étais chrétien, on m'avait mis cette étiquette quand j'étais petit, mais j'avais quelque chose dans mon cœur qui me disait ce jour que j'avais besoin simplement de me lever et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et quand il y a eu un appel dans cette sorte d'anonymat, d'une grande salle où il y a plus de 5000 personnes, je me suis levé et je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans ma vie, dans mon cœur. J'avais la conviction que j'avais véritablement accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Ce n'était plus ma religion. Avant, j'étais protestant, j'étais presbytérien. Cette fois, j'avais un sauveur qui s'appelait Jésus-Christ. C'est comme ça que ça s'est passé. Et les choses n'étaient plus les mêmes du jour au lendemain.
Vous avez eu quel âge à ce moment-là, lors de cette rencontre avec Jésus-Christ?
Oh, je devais avoir 25, 26 ans. Ça fait un certain temps.
Donc, vous êtes né dans une famille chrétienne.
Oui,
vos parents vous parlaient de la foi, lisaient la Bible avec vous.
Tout à fait.
Vous avez quand même commencé à comprendre les principes de base de cette foi chrétienne.
Bien sûr, j'avais compris les principes de base. J'avais quand même Jésus-Christ dans mon cœur, mais je ne vivais pas selon ses préceptes. Mm-hmm. Je ne vivais pas selon sa volonté. Et je l'avais mis dans une case dans mon cœur. Et en tant que musicien, je continuais à vivre cette vie. Je me disais que j'étais jeune, j'étais un musicien, je pouvais faire un certain nombre de choses. Et cette fois, le Jésus qui était au fond d'une case, au fond d'un tiroir dans mon cœur, était vraiment ressorti et avait pris la place qu'il devait prendre dans ma vie et dans la vie de chacun de nous.
Cela fait sans doute quelques années depuis que vous avez pris cette décision radicale. Vous souvenez-vous de la réaction de quelques-uns de vos amis, vos proches, en vous voyant vous consacrer entièrement à Jésus-Christ?
Ah oui, les réactions sont pas toujours très très encourageantes autour de nous, dans la famille, dans le milieu professionnel. Et les gens se disent que vous êtes devenu fou, que vous êtes entré dans une secte et que voilà, vous êtes en train de péter les plombs, comme on dit. Et finalement, au fil des années, ils se rendent compte que non, c'est plutôt vous qui avez raison et que il y a quelque chose de bien spécial qui s'est passé dans votre vie, que autour de vous, tous les gens que vous fréquentez témoignent de ce que vous avez véritablement changé. Et là, c'est vraiment positif à ce moment-là. Lorsque vos amis avec lesquels vous meniez un certain train de vie, d'abord vous reprochent dans un premier temps, et dans un second temps, ils sont les premiers à attester que véritablement vous avez changé. Ça veut dire que vous avez fait une véritable rencontre, une rencontre réelle.
Dans cette croisade d'évangélisation organisée par l'équipe Billy Graham, vous avez répondu à l'appel que vous a lancé le Seigneur. Et comment se passait la suite? Vous avez enfin trouvé place dans une assemblée pour suivre régulièrement les cultes, les études bibliques, grandir spirituellement?
Je disais tantôt que lorsque on a commencé, j'ai commencé à chercher le Seigneur, un certain nombre d'événements se sont mis en place pour que je puisse donc non seulement me lever ce jour-là à Bercy, mais avant ça, j'ai écouté nous avons écouté la radio. Il est arrivé des soirs où mon épouse et moi, on avait écouté la radio et qu'on est tombé sur un couple qui prêchait l'évangile sur, c'est pour ça que c'est très important, cher Franck, de faire, ce que vous faites, c'est-à-dire de pouvoir porter le message de l'évangile au travers de la radio, au travers des ondes. Et nous, on a écouté ces messages, ces gens qui prêchaient l'évangile sur Radio France ou RTL, quelque chose comme ça. C'était un couple. Et on était amené à aller à une réunion qu'ils organisaient dans un hôtel, je crois que c'était l'hôtel Nico à Paris. Mm-hmm. Je me rappelle même plus, j'en suis désolé, je me rappelle plus le nom de ce couple d'évangélistes. Et on est arrivé dans une réunion où les préceptes qu'on avait, en tant que protestants, quelque peu traditionnel, ces préceptes étaient complètement chamboulés. On était étonnés de voir des gens qui priaient d'une certaine manière, assez bruyante d'ailleurs, d'entendre des gens. On avait découvert par la suite que c'était une façon de prophétiser, des gens qui parlaient. On se disait, mais ils se prennent pas pour rien, ils parlent de la part de Dieu, et ainsi de suite. Mais autant d'événements qui sont déroulés, et notre enseignement s'est fait de cette manière, de petit à petit, et on est arrivé à découvrir une communauté qui se réunissait, qui était naissante, et ça a été un peu une sorte de direction que donnait le Seigneur dans ma vie, de toujours participer à des choses qui sont naissantes et donner ma modeste contribution pour que ces choses-là prennent de l'ampleur. Et on s'est donc retrouvé dans une communauté à Sarcelles qui n'avait pas d'église, qui se réunissait dans un parking, dont l'organisation ne permettait pas d'avoir un groupe vocal en tant que tel. Alors on a créé une chorale qui est devenue l'une des chorales les plus en vue de France, qui s'appelait, qui continue à s'appeler d'ailleurs, les Chérubins de Sarcelles. On a donc été appelés, mon épouse et moi-même, et on a amené nos enfants à œuvrer dans le cadre de cette église locale qui nous a apporté beaucoup dans le cadre de notre formation en tant que disciples de Jésus-Christ.
Vous venez de brosser brièvement cette question de épouse-enfant, ce qui sous-entend que vous êtes père de famille, marié, tout ça. Beaucoup d'artistes n'aiment pas trop lever le rideau sur cette réalité. Parlez-nous un peu plus largement de vous, Georges Séba, en tant que père, mari.
Ah ben, je suis père de 7 enfants et je suis marié à une charmante épouse qui a marché toujours à mes côtés au travers de mon service et de ma marche avec Jésus. Et disons que nous étions effectivement dans une situation quelque peu à l'époque où nous avons rencontré pratiquement mutuellement le Seigneur. Nous étions dans une situation où nous n'étions pas mariés, où nous vivions maritalement, parce que c'était des pratiques qui se faisaient dans le milieu de la musique. On trouvait normal que c'est ma compagne et puis on fait des enfants et on vit comme cela. Et comme on exerçait le même métier, donc on a eu comme ça à vivre avec plusieurs enfants déjà. Et lorsque cette rencontre s'est faite, nous avons pris conscience que la Bible nous enseignait qu'il n'était pas bon en tant que disciples de Christ de vivre de cette manière. Et c'est comme ça que nous nous sommes mariés en ayant déjà des enfants. Et par la suite, on a fait d'autres enfants. et tous ces enfants, nous les avons donc enseignés. Comme nous, on a été enseignés aussi. On les a enseignés dans les voies du Seigneur. On les a amenés à l'église. Ils chantent pratiquement tous. Ils sont pratiquement tous dans la musique, et puis sont tous gagnés aussi à Jésus-Christ.
Un puissant témoignage. Nous reviendrons sur votre vie de musicien, mais ça fait déjà quelques bonnes minutes depuis que nous parlons. C'est l'occasion maintenant de prendre une pause et de permettre à nos auditeurs d'écouter autrement Georges Seba. Vous avez parlé de la chorale dont vous êtes l'un des fondateurs, les Chérubins de Pierrefitte. Voulez-vous nous proposer un morceau de leurs différents albums ou bien vous nous laissez le soin de choisir?
Je vous laisse le soin de choisir.
La chorale Les Chérubins Juniors de Pierrefitte, allons prêcher la bonne nouvelle. Bonne écoute à toutes et à tous.
Allons partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Allons partout dans le monde, Jésus-Christ nous a libérés.
Écoutez Mikounag.
Chers auditeurs et auditrices de la Radio Chrétienne Ebenezer International, je vous remercie de votre intérêt pour ce média et je vous rappelle que vous suivez une nouvelle édition de Mikounag avec notre invité, l'artiste chrétien Georges Seba. Monsieur Georges Seba, comment avez-vous découvert le monde musical?
J'ai découvert le monde musical parce que j'ai été amené à l'église quand j'étais petit. Et donc, dès le début, j'ai été amené à chanter dans la chorale de mon église quand j'avais 14, 15 ans. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la guitare, que j'ai appris à chanter, que nous avons commencé. On avait d'ailleurs monté à l'époque, comme je disais, une chorale. Et j'étais aussi l'un des pionniers de cette chorale à Yaoundé, au Cameroun, qui s'appelle les Gospel Singers de Mesa 2. Donc, c'est un quartier de Yaoundé, Mesa 2. Et on a été aussi une chorale qui a beaucoup influencé la musique chrétienne dans ce pays du Cameroun. Et c'est comme ça que j'ai découvert la musique. Mais je suis sorti de là parce qu'en même temps j'étais jeune, j'étais donc le chef d'orchestre. Je suis devenu le chef d'orchestre du lycée Général Leclerc, qui est le plus grand lycée du Cameroun. Et j'ai joué comme chef d'orchestre de ce lycée pendant quelques années également. Et ça m'a valu d'ailleurs quelques difficulté parce que je suis sorti là, étant donné qu'on faisait du travail de qualité, on a commencé à jouer dans les cabarets de la ville, on a commencé à jouer dans des endroits, on était sollicité, on a commencé à très tôt à gagner notre vie en jouant de la musique. Ça a été quelque peu un handicap parfois pour les études et pour la concentration. Mais bon, c'était déjà cette sorte d'appel qu'il y avait dans ma vie comme ça pour exercer le métier de la musique. C'est comme ça. Et donc, en partant du Cameroun pour faire mes études, pour continuer mes études à Lyon, et il n'y a eu que les engrenages comme ça. Je n'ai pu que continuer dans le cadre de la musique. Donc, la découverte en tant que telle, les premières rencontres avec la musique se sont faites dans le cadre de l'église. Ça se fait un peu comme ça aux États-Unis où beaucoup de gens commencent dans la chorale et puis après font une carrière comme Aretha Franklin qui est une fille de pasteur qui a commencé d'abord à chanter dans la chorale de son père et puis qui a signé des contrats pour devenir une chanteuse professionnelle de variété. Ça a été un peu mon parcours. Donc quand je suis arrivé en France, vu mon bagage que j'avais pu acquérir grâce à ma présence dans la chorale, grâce à ma présence dans l'église et toutes les autres expériences, j'ai été amené à faire des disques en solo qui ont été des disques de variété dans la musique afro-caraïbéenne. Et dans les années 80 à 90, c'est des musiques qui ont marché. Il y a des tubes. J'ai écrit des chansons pour des chanteuses et des chanteurs connus. Et vraiment, j'ai eu des années assez fastes à ce niveau également.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont grandi dans l'église, qui ont découvert la musique dans l'église, et qui après ont abandonné cette source où ils ont découvert non seulement la musique, mais l'évangile, la bonne nouvelle. Mais fort heureusement, il y a des exceptions, des artistes qui, reconnaissant au Seigneur de leur avoir permis de découvrir la musique et la foi dans l'église, ils y restent pour continuer à servir le Seigneur. Et vous êtes un exemple, ça.
Oui, ça a été d'ailleurs parfois source d'étonnement pour les gens qui ne connaissaient pas mon parcours. Ils se disaient, mais qu'est-ce que... au moment, par exemple, où j'ai eu à travailler régulièrement avec les chérubins, les gens se sont dit, oh Georges, qu'est-ce qu'il fait? Il a abandonné le métier, il rentre à la religion, entre guillemets. Mais c'est des gens qui ne connaissaient pas mon parcours, qui ne savaient pas que... Je viens de là, que je viens de l'évangile, je viens du gospel, et que ce n'était qu'une sorte de retour, et que monter une chorale telle que les chérubins ou un groupe quel qu'il soit était tout à fait pour moi une vocation, et que on n'avait pas pour vocation de monter un groupe qui marche et qui veut, mais c'était le sérieux et la passion que nous mettions dans et la consécration que nous mettions dans ce travail qui avait valu tout le succès qu'il y avait eu et l'attirance des médias et tout le reste. Donc c'était tout à fait naturel et voilà, je continue à le faire de manière tout à fait normale et je me considère comme un musicien qui est disciple de Jésus-Christ. Et je pense que chacun de nous a un appel, et je sais que je chemine dans cet appel-là, mais ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce n'est pas nécessairement d'abandonner. Moi je dis toujours, le Seigneur m'a pas demandé d'abandonner le métier, mon métier, il m'a demandé d'abandonner le péché. Donc il est important que des musiciens donnent l'exemple dans le milieu de la musique, il est important que des boulangers donne le témoignage dans le milieu de la boulangerie. Il est important que des pilotes de ligne, que des footballeurs donnent le témoignage. Qui témoignerait si ce n'est les gens de cette classe professionnelle? Et je pense que, sans prétention, le Seigneur m'a toujours utilisé dans le milieu de la musique. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais avec mon nouveau groupe, le Chœur Gospel de Paris, pour les obsèques d'un photographe très connu qui est un photographe qui était photographe de Paris Match. Et donc c'est que les gens savent que dans le milieu du show business, il y a des gens comme ça qu'ils vont appeler quand il y a besoin, et c'est un privilège que nous avons d'être de pouvoir être des sortes de sentinelles dans ce milieu et de pouvoir leur apporter ce réconfort et leur parler ce message de la foi.
Voilà. Georges, je sais que, si vous me le permettez, vous êtes un connaisseur du gospel, un expert dans le domaine. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Il semble qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à déshabiller le gospel, d'enlever tout ce qu'il y a de spirituel pour faire du gospel tout simplement un style de musique. Quand on dit gospel, on voit tout d'abord l'évangile, la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut parler de gospel, de musique gospel, sans découvrir, sans réaliser ce message, même discrètement, à travers cette musique?
Non, on ne peut pas. Moi, je dis toujours que le message, le gospel n'est pas un genre musical. Le gospel est un message. Donc, on a plutôt tendance à vouloir le situer comme un genre musical, au même titre que le reggae, au même titre que le jazz, au même titre que le compas, au même titre que maintenant, le gospel, fondamentalement, est un message. Le message de l'évangile, gospel. Évidemment, dans sa traduction littérale, signifiant évangile. Évangile voulant dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà ce que c'est que le gospel. Et aujourd'hui, effectivement, ça devient quelque part une sorte de fonds de commerce où des groupes sont formés et dont les membres n'ont pas foi à ce message qui doit faire l'essence du gospel. Et c'est devenu quelque part une sorte de show, de gospel business, où on trouve des dates de concert, où les gens s'expriment techniquement, où des ateliers sont montés et où les gens se font un bon cachet chaque année parce qu'il y a des gens qui payent pour pouvoir chanter le gospel. Je dis techniquement, c'est une chose, mais il faut une relation personnelle, celle que j'ai eu à raconter tantôt, une relation personnelle avec le personnage principal du gospel, qui est Jésus-Christ. Et tant qu'on chante du gospel sans cette relation réelle, en tant que sauveur, c'est-à-dire Jésus en tant que sauveur de votre vie, vous êtes encore pas arrivé, vous n'êtes qu'à la moitié du chemin. C'est ce qu'il faudrait savoir et comprendre. Donc, chaque message et chaque musique, même à la limite, est sous-tendue par un message même spirituel qu'il défend. Et voilà, le reggae défend un certain état d'esprit. Le jazz a été une sorte de... Le rock and roll, ça a été des véhicules de messages. Et le gospel est le véhicule du message de l'évangile.
C'est bien de l'entendre de la bouche de quelqu'un comme vous. Et je me demande, est-ce que l'heure n'est pas venue pour qu'on fasse un recalibrage de la mentalité, de la conception qui tourne autour du gospel? Est-ce que les groupes chrétiens, les artistes chrétiens n'ont pas un rôle important à jouer pour dire, voilà, nous savons ce que c'est le gospel. Et à chaque fois que nous voulons utiliser cette musique, il faut que nous fassions de notre mieux pour que ce message de base soit toujours présent.
Tout à fait, je vous avais tout à fait raison. C'est le devoir des authentiques musiciens de gospel de pouvoir resituer les choses. Mais bon, elles ne se resituent pas nécessairement au niveau du discours que nous pouvons tenir en disant que voilà, le gospel c'est ci, c'est ça, ce que je ne manque pas moi personnellement de faire. Mais je crois que le recalibrage se situe au niveau de notre attitude, de notre façon d'être. Les gens font la différence de toute façon, parce que c'est un message spirituel. Et les gens peuvent voir 2, 3, 400 groupes de gospel, mais le jour où ils voient un groupe authentiquement engagé dans le message du gospel, ils sentent la différence, parce qu'il y a une onction qui se dégage de ce groupe-là. Donc, et cela peut être d'ailleurs salvateur pour les autres groupes qui... Moi, je vais vous faire un témoignage d'un frère que j'ai vu évoluer, qui est arrivé à une stature d'homme de Dieu aujourd'hui, qui, au départ, avait une certaine relation, certainement, avec le Seigneur. Mais ils avaient un groupe comme ça, ils étaient admirateurs à l'époque du Golden Gate Quartet. Ils ont monté un groupe qui s'appelait les Perles du Congo, le Palata. Alors cet homme, c'est un grand homme de Dieu aujourd'hui qui s'appelle Marcel Mbongo. Je l'ai vu évoluer et je veux dire qu'il a, ils avaient un groupe qui tournait beaucoup, qui était bien managé. Et puis finalement, je l'ai vu au fil des années, je l'ai observé attiré vraiment vers la destinée qui était la sienne, celle de d'un authentique, la carrure d'un authentique homme de Dieu. Et aujourd'hui, moi personnellement, je peux voir la différence qu'il y avait entre cette époque où je l'ai connu il y a 20 ans et cette époque d'aujourd'hui où il a vraiment évolué dans cette carrure de serviteur de Dieu.
Nous avons eu l'occasion de rencontrer cet artiste, cette référence dans le gospel francophone, Marcel Mbongo, dans une édition spéciale de Gospel Plus. À l'heure de notre deuxième pause, nous allons permettre à nos auditeurs qui l'ont ignoré ou bien qui ont oublié de qui nous parlons, de pouvoir revivre une intervention de Marcel Mbongo dans un chant qu'il va nous interpréter intitulé « Il s'appelle Emmanuel ». Mais juste avant,
avec plaisir.
Juste avant, aviez-vous eu des proches, amis, quelconques qui vous ont influencé par rapport à vous, aux différents styles que vous embrassez dans votre carrière musicale? Quelles sont vos influences?
Mes influences sont, à mon avis, révélatrices de ma nature physique et spirituelle. Et c'est que je suis un métis. Donc, je suis métis. Je suis né d'une mère camerounaise. Donc, profondément africain. Mon père est grec. Comme je disais tantôt, j'ai pas vraiment connu ma culture grecque. Mais, en plus, je suis blanc, je suis noir. J'ai été éduqué dans la culture française. J'étais dans l'école française de Yaoundé. J'ai appris que mes ancêtres étaient les Gaulois. Donc, sur ce plan-là, j'ai une influence vraiment diverse, une influence africaine, et d'ailleurs je la revendique toujours dans ma façon de faire la musique, qu'elle soit gospel ou autre, revendiquer mon africanité. Et puis il y a le fait que je suis francophone, et j'ai donc pu, par ma culture musicale dans l'église, faire du gospel, mais faire également des écouter du classique. J'ai pu écouter de la musique classique. J'avais un très bon chef de chœur qui s'appelait Elang Abraham, un grand musicien dont je suis toujours reconnaissant pour son apport, qui m'a donné du goût pour Handel, par exemple. On a beaucoup travaillé des œuvres de Handel. Donc il y a du classique, il y a du jazz aussi, il y a du gospel, il y a de l'africain, et c'est toutes ces influences là qui font que je ne peux vraiment pas me situer de manière précise en disant que j'étais plus ou moins influencé par telle ou telle personne. J'ai fait simplement des rencontres qui m'ont façonné, qui ont façonné ma personnalité musicale. Plus tard dans le show business, j'ai fait beaucoup de rencontres dans le milieu de la Caraïbe. J'ai travaillé avec Kassav, avec Jacob Desvarieux, avec tous ces gens-là qui... Ah, il y a eu des interactions d'ailleurs, je crois que Kassav aussi a été assez influencé par l'Afrique. Et donc toutes ces interactions, j'ai travaillé en France quand même avec des personnalités pendant quelques années, que Nicole Croisy, j'étais sociétaire de son groupe, j'ai eu le privilège de faire des arrangements entre guillemets gospel pour des œuvres de Nino Ferrer. Voilà, plein de choses complètement disparates qui font de moi ce personnage pluriel qui aime bien faire sortir toutes les facettes de ce qu'il est.
C'est vous qui avez appelé Marcel Mbongo pour qu'il intervienne dans cette émission. Et bien, cédons-lui la place pour nous interpréter ce beau morceau. Il s'appelle Emmanuel. Bonne écoute à toutes et à tous.
Mikounag, l'émission qui vous aide à mieux connaître les artistes chrétiens. Mikounag, sur la RCEI, votre radio.
Naki au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant.
Car il parlait toujours d'amour.
Ayant eu comme ami pêcheur de Galilée, qui le suit jusqu'au pied de la croix.
Mieux connaître les artistes chrétiens, Mikonag sur la RCEI, votre radio.
L'émission Mikonag continue sur les ondes de votre radio Ebenezer International. C'est votre ami, votre podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis une petite ville ou une grande ville française de la banlieue parisienne, Goussainville.
Une petite ville, Goussainville, c'est pas, ouais, c'est pas très grand.
Combien d'habitants?
J'avoue, je ne sais pas. je suis un habitant de Goussainville, mais j'avoue que c'est un peu une case de passage. Hein. C'est pas loin de Roissy, donc oui. Je suis pas allé à l'aéroport assez rapidement. Et puis je tourne beaucoup, je suis un peu comme les gens du voyage, toujours parti en tournée et ailleurs. Donc je ne sais pas trop combien d'habitants il y a ici, mais c'est suffisamment grand pour avoir tout ce que l'on veut, mais suffisamment petit pour ne pas être oppressé comme dans une grande ville du type de Paris.
De toute façon, Goussainville n'est pas aussi petite que toi, tu peux le penser. Je commence à te tutoyer.
Ah, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, avec plaisir.
Quelqu'un qui ne connaît pas Goussainville, qui se perd dans l'une ou l'autre de ces villes, eh bien, il peut avoir du mal à se retrouver s'il n'a pas
tout
de
à fait, GPS. Tout à fait. Mais ce que j'apprécie ici, c'est que Goussainville est suffisamment proche de Paris pour être à 20 minutes de la porte de la chapelle. Oui. D'ici, d'un certain endroit de certains endroits de Goussainville, on peut voir la tour Eiffel, et donc du coup on n'est pas loin de la civilisation, mais en même temps on a derrière chez moi, on a des champs où on peut se promener avec son chien, on peut être dans la nature, on peut aller faire du vélo, et on a l'impression d'être aussi à la campagne en même temps, donc c'est vraiment un endroit idéal. Et puis à l'époque on avait choisi cet endroit parce qu'on n'était pas loin de l'église dans laquelle on exerçait le métier, le ministère à Sarcelles. Donc c'était vraiment un endroit parfait stratégiquement.
On reviendra sans doute à la chorale de Sarcelles, puisque vous y avez laissé vos empreintes. Mais continuons avec notre programme pour vous dire que nous savons que tous les artistes n'ont pas les mêmes possibilités d'évolution. Quant à vous, comment avez-vous commencé cette carrière? Est-ce que le chemin était tout tracé et bien fluide? Parlez-nous-en un peu.
Le chemin a été... moi, je dis toujours de la vie en général et du métier de la musique en particulier que la carrière musicale n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond où il faut apprendre à connaître son rythme cardiaque, son rythme respiratoire, savoir persévérer dans l'effort, garder le rythme, continuer malgré les difficultés. Et plus souvent, il y a des difficultés qu'il y a des choses faciles. Il y a plus souvent des difficultés que des défaites que des victoires. Mais lorsqu'on est suffisamment passionné, je crois qu'on est assez équipé pour aller loin dans ce métier. Mais pour ma part, je crois que j'ai été encouragé dans cette voie parce que simplement j'ai eu dans un premier temps une sorte de boulevard qui s'est fait, c'est-à-dire que j'ai eu du succès au départ, j'ai fait un premier disque à l'époque qui était de la musique africaine qui a marché suffisamment fort et d'ailleurs qui a été repris quelques années après, entre autres par une de mes chansons a été reprise dans son spectacle par Yannick Noah, et donc il y a eu un succès vraiment au début, et ce qui m'a valu donc une sorte de succès. Et après, en fait, c'est après que les difficultés sont venues, mais j'étais déjà engagé. Et parfois, le Seigneur fait comme ça avec nous aussi, même dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Et il nous fait découvrir la dimension de sa grandeur, des miracles qui peuvent se produire au travers de notre engagement avec lui. Et puis après, il nous fait entrer dans le désert. Et là, mais comme on a goûté à ce qu'il est capable de faire, eh ben, on en a la force. Il nous donne la force de traverser le désert avant d'arriver finalement à Canaan. C'est ça le parcours sur le plan musical aussi. De se dire que bon, ben, il y a un début. Et il y a une sorte de découverte de ce métier. On entre dans les difficultés qui sont liées à ce métier. Et puis après, ben, le fruit de ces difficultés, lorsqu'on les brave, eh ben, c'est le succès, c'est de pouvoir vivre de ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai le privilège de vivre de ce métier, d'avoir une femme, 7 enfants, et d'avoir toujours dans la marmite de mon épouse suffisamment de quoi manger. Et c'est une grâce de pouvoir vivre de ce métier aujourd'hui.
Amen. Georges Seba, vous n'êtes pas seulement chanteur, vous êtes musicien aussi.
Je suis guitariste à la base.
Oui.
Je suis guitariste à la base. Et donc j'ai évolué dans ce sens. Je joue un peu de piano, je joue un peu de percussion, je chante. Et je suis donc auteur-compositeur, mais également arrangeur. Et je fais des arrangements pour les groupes, que ce soit gospel ou de variété. Et voilà. Je travaille beaucoup dans le milieu. J'ai travaillé ces dernières années beaucoup dans le milieu de la variété française sur le plan vocal. Et j'ai eu le privilège de travailler avec des gens comme Jean-Jacques Goldman, comme Céline Dion, comme c'est moi qui ai fait jusqu'à présent toutes les directions de chœur pour Yannick Noah jusqu'aujourd'hui. Et bon, j'ai travaillé avec Florent Pagny, Lara Fabian et beaucoup d'autres gens, et toujours des occasions nouvelles de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres.
Mais ces gens, quand vous collaborez avec eux, ils savent très bien que vous êtes un homme spirituel, un croyant convaincu. Ça ne leur pose pas trop de problèmes de savoir que vous avez la main de Dieu sur vous dans le travail que vous faites.
Non, ça ne leur pose pas de problème. Bien au contraire, je crois que pour la plupart d'entre eux, ils viennent souvent vers moi pour ces raisons-là. Pour les raisons du fait que je suis dans le gospel, que je suis un homme spirituel, et que lorsqu'ils ont besoin sur un titre... Ils peuvent avoir tout un album, et quand ils ont besoin sur d'une direction qui ne soit pas nécessairement explicite sur le plan des textes, mais sur le plan d'une couleur, ils ont besoin d'une couleur qui est spirituelle, parce que évidemment, parfois c'est des gens qui ont une certaine foi en eux, qui n'expriment pas de la même manière que nous autres, qui l'exprimons clairement, et parfois ils ont besoin donc de manière sous-tendue, de manière entre guillemets subliminal, de pouvoir passer leur foi au travers d'un arrangement comme ça qui est gospel. Je m'en souviens, il y a pas longtemps, j'ai été invité par des amis Kassav qui fêtaient leurs 30 ans au Stade de France, et ils m'ont demandé: Georges, tu veux pas venir faire une chanson avec nous? Et c'était pas un gospel, mais c'était une chanson qu'ils voulaient chanter pour le public, c'était Pouzot. Ils voulaient dire qu'ils ont chanté pour le public pendant toutes ces années, et j'ai fait un arrangement très très gospel, très vocal, et je me rappelle que Jocelyne Berroir et tous les autres étaient très très touchés par cette... J'ai compris qu'ils avaient, au travers de nos échanges, j'ai compris qu'ils avaient besoin d'une plage émotion, mais d'une plage plutôt spirituelle, une sorte d'action de grâce pour quand même le parcours qu'ils ont eu, et qu'ils n'expriment pas nécessairement de la même manière que moi.
Vous savez, Monsieur Georges Seba, le monde évangélique ou le monde religieux est parfois très sévère, très critique, très dur par rapport aux artistes ou bien aux chrétiens, aux autres chrétiens qui laissent une ouverture pour aller vers les autres. Ils trouveront toujours un verset biblique pour vous dire: voilà, monsieur, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Alors qu'un Jésus, le Fils de Dieu, l'homme parfait, n'avait pas eu honte de tendre la main vers un Zachée, un voleur, un menteur, une femme prostituée.
Vers Marie de Madeleine.
Voilà.
Marie-Madeleine. Et le but n'est pas que Jésus devienne comme Marie-Madeleine, mais que Marie-Madeleine devienne comme Jésus.
Amen.
Et c'est ça le challenge, que nous puissions être impactés sur notre société, sur notre voisinage, sur nos collègues, sur notre vie. Et à ce titre-là, j'ai un témoignage. Je travaillais avec un groupe de jazz. Et donc ces amis-là reviennent le lendemain avec des photos qu'ils regardent au petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oh Georges, non Georges, ça c'est pas pour toi. Ça veut dire qu'ils savaient que dans le cadre de notre relation, nous avons des domaines de définition où nous pouvons travailler ensemble, faire de la musique, et des domaines dans lesquels ce n'est pas pour moi. Et ils le témoignaient de leur propre bouche. Un jour, on partait de Jakarta à Singapour en avion. On a été pris dans une tempête que j'ai rarement vue en avion. Et là, les plateaux qui sautaient dans l'avion, c'était pendant le repas. Et quelqu'un, un des musiciens qui me dit: Georges, il faut que tu pries. ça veut dire que voilà, ils savent que s'il y a quelqu'un qui doit prier dans l'avion, c'est Georges. Et comme ça, il y a plein d'exemples. J'étais pas longtemps, on a perdu un grand monsieur de la musique dans la Caraïbe, Patrick Saint-Éloi. Et lorsqu'il est parti et que les choses sur un certain plan doivent se faire, eh ben, on a eu le privilège. Qu'est-ce qui a eu le privilège de chanter au moment de ces obsèques? Eh ben, c'était mon épouse, moi-même et puis deux de mes filles. On a eu à chanter, et ça veut dire que à chaque fois, tous ces gens que nous fréquentons dans le milieu de la musique, qui n'ont peut-être pas le parcours que nous avons dans le domaine de la foi, ont quelque chose dans leur cœur, dans cette direction, qui ne demande qu'à être encouragé. Et c'est par notre témoignage et non par notre jugement que ces gens-là pourront faire ce chemin-là. Devant leur montrer, comme comme vous disiez tout à l'heure à propos de Jésus, que nous ne devons pas juger les gens, mais nous devons les aimer et les guider, les conduire modestement, avec amour, vers le Seigneur.
Mais ce privilège n'est pas accordé à tout le monde. Ça nécessite une maturité spirituelle. La Bible même nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont
tout
dans
le
monde, etc.
Tout à fait.
Si quelqu'un n'est pas sûr d'avoir suffisamment de conviction, eh bien, est-ce que vous lui conseillerez de suivre votre exemple?
Je ne pense pas que ce soit facile, effectivement. C'est vrai que ce n'est pas donné à tous, mais le privilège que j'ai, et mon épouse aussi, que nous avons, c'est que nous avons en fait, c'est vrai que les feux de la rampe ont tendance à corrompre. Donc quand on est sous, on est sous le succès, quand on a des on est sous les lumières, on oublie quelque part la foi, et la chair a tendance à se manifester. Mais notre parcours est particulier dans ce sens que nous avions connu le succès. J'avais connu le succès. J'étais jeune, j'étais beau, et il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon cœur. Je me suis dit, mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça les beaux habits qui coûtent cher? Est-ce que c'est acheter du champagne tous les soirs? Est-ce que c'est acheter du whisky à toute la boîte de nuit? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce Dieu? Et donc, ce parcours à l'envers m'a permis d'avoir du succès et de le ramener quelque part comme une offrande sur l'autel pour le Seigneur, et me permet donc, que ce soit du succès dans le milieu de la musique tout court ou dans le milieu du gospel, me permet donc, cette situation me permet d'avoir du recul avec le succès, avec les, comme je disais, les feux de la rampe. Donc j'arrive à passer au travers des entraves que peuvent nous apporter le succès et la grosse tête, comme on dit dans le
Ça, c'est sûr. Votre passage à la chorale Les Chérubins ne saurait être mise de côté. On l'a brossé brièvement à plusieurs reprises. Que pouvez-vous nous dire de cette si riche expérience dans Les Chérubins? C'était au départ quelque chose de tout à fait simple que Dieu a rendu riche pour vous, sans doute. Quel souvenir? Parlez-nous un peu de votre passage, de vos expériences dans Les Chérubins.
Mais c'est tout simplement l'expérience de l'action véritable de Dieu. Je dis toujours que c'était une communauté qui est toujours composée de gens qui viennent d'Afrique, plus spécifiquement du Congo, et beaucoup de gens qui viennent aussi de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique et tout ça. Et on sait que, entre autres, les Congolais sont des gens à la base qui ont le talent de musique et de chanteur, les Antillais également.
Ah oui.
Mais honnêtement, je pense que je suis trouvé dans les moins bons. Mais alors, l'expérience que j'ai eue dans ça, c'est que j'ai appris au travers de cela ce que est capable de faire le Seigneur de nous, des gens qui, et puis ce qu'il peut faire de notre consécration, du travail que nous faisons. Et à partir du moment où nous sommes consacrés, que nous prenons au sérieux la mission que le Seigneur nous donne, il la fructifie. Et à partir de là, on est parti honnêtement d'un groupe qui était pas terrible, et on s'est retrouvé avec l'un des groupes les plus en vue à l'époque en France, ce qui veut dire que c'est important de pouvoir non seulement se confier au Seigneur, d'être humble. On avait une attitude consacrée, humble, qui recherchait la gloire du Seigneur. Et c'était pour revenir un peu sur ce dont on parlait à propos du gospel en général, du mouvement des groupes de gospel. C'était vraiment aux antipodes de certains comportements. Et à partir du moment où on est humble, la Bible nous dit, si vous vous abaissez, vous serez élevé. Et c'est ce qui s'est passé. On avait appris à cette époque à le faire, et le Seigneur a honoré sa parole.
Avant de prendre congé de vous, nous vous proposons ce dernier morceau de la chorale Les Chérubins, le psaume 121.
Je lève mes yeux.
Bonne écoute à toutes et à tous.
Montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours. les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Chancelle, celui qui ne dort ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde, qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Maintenant et à jamais, dès maintenant et à jamais. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Yeah, yeah, yeah. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, la lune pendant la nuit. Oh non. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Vous écoutez Mikonag. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices de la Radio Chrétienne Ebenezer Internationale, nous arrivons à la fin de ce nouveau numéro de Mikonag qui vous a permis d'écouter la première partie de l'interview que nous a accordée l'artiste chrétien Georges Seba. Quant à la deuxième partie, nous la conservons pour la prochaine édition de Gospel Plus, espérant que vous serez tous au rendez-vous pour vous informer davantage des différentes activités de ce serviteur de Dieu, et plus particulièrement sa nouvelle formation musicale, le Chœur Gospel de Paris, ainsi que son album solo sur lequel il travaille actuellement. Avant de partir, je dois remercier sincèrement notre frère Georges Seba qui a répondu à notre invitation pour la réalisation de l'émission. Sans oublier sa collaboratrice, Madame Mechthilde Lecas, qui nous a aidés dans les différents contacts et dans la planification de ce rendez-vous. Avant de partir, j'aimerais lancer cette invitation à tous les artistes et les groupes évangéliques qui souhaiteraient se faire découvrir. Sachez que cette radio est à votre disposition.
N'hésitez pas de nous contacter à cette adresse email francradio@aol.com. Ce me sera un plaisir non seulement de vous parler, mais surtout de planifier ensemble votre participation à l'une ou l'autre de nos différentes émissions conçues à cet effet. Je remercie l'artiste Nicolas Desmarais, à qui nous devons notre générique, ainsi que les différentes sociétés de production chrétienne qui nous encouragent dans ce travail en nous autorisant à utiliser leur production musicale dans le cadre de ce ministère. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie infiniment de votre intérêt et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Gospel Plus pour la suite de cette interview réalisée avec l'artiste chrétien Georges Seba, l'invité du jour. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil, qui vous dit merci et au revoir. Vous venez d'écouter Mikonak, l'émission qui vous aide à mieux connaître les artistes chrétiens. Mikonak sur la RCEI, la radio qui vient vers vous pour vous servir. The Digital Gospel Channel, your station.